Bien, merci Michel. Bonjour. Alors nous allons essayer, Gérard et moi, de vous parler de notre ouvrage. En fait, nous avons réparti la tâche entre nous deux de la manière suivante. Je vais d'abord commencer à parler de la méthode pour que vous compreniez un peu la démarche qui est la nôtre. Gérard ensuite présentera le sujet du chaos ambiant, qui est un peu celui de notre livre. Et puis ensuite, nous avons pensé, alors, au passage, il parlera certainement de la crise financière, et puis ensuite, nous avons pensé qu'il serait utile, à la fois parce que ça nous amusait, puis parce que c'était aussi dans l'actualité, de prendre deux thèmes qui ne sont d'ailleurs pas spécialement traités dans le livre, qui sont le sujet de l'Internet et de l'Europe, et puis de les passer un peu à la moulinette de notre analyse et de notre démarche. Voilà, donc on va essayer de faire ça un peu à deux voix, en alternant nos interventions. Et donc je vais commencer par la partie la plus emmerdante, c'est-à-dire la méthode, pour que vous compreniez un peu quelle est notre démarche. Alors d'abord, un peu pour vous motiver, chacun de nous a fait l'expérience, je pense, d'une situation où son humeur, sa situation fait que la manière dont il se comporte est altérée. À certains moments, nous avons beaucoup de temps libre, mais en même temps, nous sommes très angoissés et finalement, nous ne faisons rien et ça amplifie notre impression de malaise. Au contraire, d'autres moments, nous sommes en très grande surchauffe de travail ou d'activité et ça amplifie parfois notre productivité. On peut avoir ce genre d'expérience individuelle et chacun sait également comment il est difficile de résister à ses désirs, à ses addictions. Et donc c'est aussi un sujet pour lequel il nous semble qu'il peut y avoir bien sûr une interférence entre l'état psychologique dans lequel nous sommes et notre comportement, nos actions et notre production intellectuelle ou bien plus productive. Alors, de tout cela, on a tiré l'idée que, au fond, on pouvait essayer de voir, et c'est un peu le projet de notre livre, pas seulement comment, pour un homme donné, pour un homo economicus donné, eh bien, qu'est-ce qui se passait lorsqu'il y avait des chocs, ou lorsqu'il y avait des crises, ou lorsqu'il y avait des événements majeurs, mais on a essayé de se demander comment il pouvait y avoir interaction entre ces chocs, ces crises, ces événements économiques majeurs, et en même temps notre état psychologique. C'est ça la démarche de notre bouquin. Alors, pour le faire, on s'est d'abord appuyé, bien sûr, sur l'économie, puisque c'est ça notre, disons, notre ancrage de base. Mais aussi, au lieu de, disons, on a voulu se départir de l'idée de l'homme rationnel et on s'est orienté vers l'analyse d'un homme différent, d'un homme freudien, c'est-à-dire d'un homme qui a un inconscient. Un inconscient dont vous savez que Freud dit qu'il n'est pas accessible. Donc il est un homme qui a quelque chose qui est d'une certaine manière indécouvrable ou en tout cas pas complètement accessible à notre savoir. Et donc on est parti de l'analyse de Freud et on a donc une sorte d'homme freudien quoi, qui est différent de l'homo economicus, qui est un peu différent même de l'homme cognitif qui est actuellement très étudié par l'économie comportementale parce que cet homme cognitif, il ne fait pas appel au subconscient et à l'inconscient. Il fait appel à des réflexes, il fait appel à des interactions entre l'émotion et la rationalité, mais pas tout à fait, nous semble-t-il, en tout cas, à l'analyse de Freud. Alors, donc, premièrement, nous avons voulu emprunter à Freud un certain nombre de ses outils conceptuels. Et bien sûr, parmi ces outils conceptuels, il y a l'analyse du psychisme des individus. Vous savez que Michel en a dit un mot tout de suite avant notre introduction. Le psychisme des individus, il comprend trois instances, comme trois personnages, en quelque sorte, de la pièce, qui sont le ça, hein, le ça qui est le point de départ de toutes les pulsions humaines, hein, la jonction entre le corps et l'esprit. Et donc, c'est au fond les forces vitales qui peuvent être créatrices ou destructrices, qui peuvent être de vie ou de mort, qui peuvent être d'amour ou de destruction. Donc, le ça, c'est le point de départ de nos esprits animaux hein, aux hommes. Alors, le ça, il est tempéré, il est géré par ce que Freud appelle le moi, qui est un peu le chef d'orchestre, qui est un peu celui qui est chargé de rendre nos impulsions, nos désirs présentables. Hein, présentable à l'extérieur, présentable à la réalité, compatible avec la société, compatible avec la vie en commun. Et donc le moi, c'est le chef d'orchestre qui va refouler, qui va avoir un certain nombre de moyens de défense pour faire en sorte que tout ce qu'il y a dans nos pulsions ne sorte pas, n'affleure pas, et qu'il y ait un minimum de censure, ou en tous les cas d'adaptation à la réalité. Et enfin, le troisième acteur de Freud, c'est le surmoi. Le surmoi qui est une sorte d'émanation du moi, qui est l'ensemble des contraintes que nous avons nous-mêmes intériorisées de notre éducation, de notre environnement. C'est l'éducation de la famille, c'est la société, c'est l'école, c'est les normes sociales, c'est les interdits, bien sûr. Tout ça, ça constitue, une fois que nous l'avons nous-mêmes, d'une certaine manière, pris à notre compte, le surmoi, les règles qu'il ne faut pas enfreindre, ou qui, en tous les cas, qu'il en coûte d'enfreindre. Voilà donc l'idée de Freud, hein, c'est ces trois instances. Et donc nous avons repris ces trois instances et nous les avons adaptées, non pas à n'importe quel ensemble, mais à des groupes et à ce qu'on appelle des groupes structurés, c'est-à-dire des groupes qui ont la propriété d'exister, disons, indépendamment de leurs membres. Hein, une entreprise, c'est un groupe structuré, c'est-à-dire que c'est quelque chose constitué de tout un ensemble d'éléments, mais qui est indépendante de la nature de son personnel ou de son PDG, ou de qui a une histoire, qui a une culture, qui va se prolonger, va évoluer peut-être, hein, mais va se prolonger dans le temps, et qui a donc notre hypothèse, hein, notre hypothèse très forte, c'est que pour ces groupes structurés, on peut faire l'hypothèse donc que ces groupes structurés sont comme les individus, c'est-à-dire qu'ils ont une sorte de psychisme collectif, et que ce psychisme collectif, il s'ordonne autour des mêmes instances qui correspondent au moi, au ça et au surmoi, plus une que je vais vous présenter. Alors, un des aspects importants de notre livre, c'est qu'au fond, il faut interpréter dans chaque cas de figure, pour chaque groupe, qu'est-ce que c'est que le moi, qu'est-ce que c'est que le ça, qu'est-ce que c'est que le surmoi. Et nous les baptisons un peu différemment. Le moi, on l'appelle le prince, hein, c'est un peu le chef, hein, celui qui dirige. Le ça, on l'appelle le producteur. Dans une société, c'est toutes les, par exemple, dans une entreprise, c'est toutes les routines de production, c'est tous les services de recherche ou d'innovation, c'est y compris les hommes de marketing, c'est tous ces gens qui travaillent pour créer de la valeur, pour prendre des initiatives, pour attaquer la concurrence, pour faire la vie de l'entreprise, bien sûr, telle que nous la connaissons. Et de même, on pourrait imaginer dans une famille, il y a également une sorte de groupe de ce type-là. Enfin, on peut retrouver chacun des groupes structurés qu'on peut imaginer, on peut réinterpréter la structure de ces groupes pour y retrouver le moi, le prince, ou le ça, le producteur. Le surmoi, c'est ce que nous appelons le prêtre, c'est-à-dire, au fond, le porteur de valeurs, d'interdits, de règles du jeu qui sont spécifiques au groupe. Hein, chaque entreprise, pour reprendre encore cet exemple, a ses valeurs, a ses règles qu'il ne faut pas enfreindre, et elles sont différentes d'une entreprise à l'autre. Chaque groupe aussi a bien sûr ces mêmes principes. Et enfin, on a introduit un quatrième acteur qui est ce qu'on appelle le professeur. Le professeur, c'est l'ensemble de ce qui est chargé de faire le lien avec le monde extérieur. Hein, ça peut être d'ailleurs dans les deux sens. Ça peut être ce qui permet de faire entrer des gens de l'extérieur du groupe dans le groupe, de les introniser dans le groupe. Ou ça peut être au contraire, dans le sens inverse, la direction de la communication qui intervient en interface avec le monde extérieur. Ou au contraire, tous les gens qui interprètent le monde et qui aident à faire des plans stratégiques, des analyses concurrentielles, etc. C'est donc tous les analystes, en quelque sorte, les chefs économistes et autres que nous connaissons. Donc voilà, de manière extrêmement simplifiée, hein, notre analyse, c'est de dire il y a, de même que dans l'individu, il y a des instances simples, hein, le moi, le ça, le surmoi, eh bien, il y a ces quatre instances au niveau des groupes structurés. Et au fond, faisant ça, on ne fait rien d'autre que de reprendre un peu la méthode qu'a utilisée Freud quand il a analysé, avec sa formidable perspicacité, des problèmes de sa société, les problèmes dans Totem et Tabou, les problèmes qu'il a analysés dans Le malaise dans la civilisation. Nous avons essayé de nous poser un peu dans cette même ligne. Alors, bien sûr, c'est un saut très important que de faire l'hypothèse de cette hypothèse, mais pourtant, en même temps, on n'est pas tout à fait les premiers à faire cette hypothèse. Hein. Outre Freud, bien sûr, même aujourd'hui, on voit des tas de gens qui ont fait des choses très importantes dans ce sens-là. Par exemple, pour prendre deux exemples simples, vous connaissez tous les travaux d'Emmanuel Todd. Emmanuel Todd a fait un peu la même chose en insistant sur l'analogie qu'il y avait entre les structures familiales et les structures de société. Et son analyse est parfois très, très pertinente et très percutante. De la même manière, avant Emmanuel Todd, bien avant Emmanuel Todd, un grand sociologue comme Norbert Elias avait fait le lien entre la structure de l'individu et la structure de la société. Et ça, c'est un point qui nous a encouragés à continuer dans cette voie. Avec une autre idée que nous avons voulu introduire, c'est l'idée que l'équilibre de la société, un équilibre psychologique, psychique de la société, c'est un équilibre, c'est quelque chose qui correspond à l'adéquation des structures psychiques que l'on a dans les différents groupes de cette société. Au fond, dans notre esprit, si vous voulez, l'individu a son psychisme, les groupes, les différents groupes qui existent dans la société ont leur propre psychisme avec ses instances. Et au fond, pour que la société soit cohérente, soit dans une certaine harmonie en tous les cas, eh bien, il est souvent utile qu'il y ait une sorte de compatibilité entre les structures mentales, les organisations psychiques des différentes instances, des différentes structures de l'organisation sociale. Donc voilà une autre hypothèse très importante. Et c'est à partir de là que nous avons construit, bien sûr, notre schéma. Bien sûr, j'insiste beaucoup sur les instances, parce que c'est assez parlant, c'est assez important, mais il n'y a pas que les instances dans l'analyse de Freud, il y a les pulsions, bien sûr, mais il y a aussi toutes les résistances, les défenses. Nous avons beaucoup insisté sur les différents types de défenses que l'on a. Les défenses, ça peut être le refoulement, hein, ça peut être la censure, l'interdiction, mais ça peut être aussi ce que Freud appelle le clivage, c'est-à-dire la séparation des objets en bon objet, mauvais objet, et au fond, une sorte de clivage entre ces deux ensembles qui fait qu'à certains moments, nous nous intéressons qu'à celui qui nous arrange et nous essayons d'oublier celui qui nous gêne. Et bien sûr, c'est une forme de défense très très importante. Nous avons aussi, bien sûr, la sublimation, tout ce qui correspond à l'identification ou à la sublimation, qui sont, bien sûr, des défenses très importantes. Mon propos liminaire, c'est de vous dire, au fond, nous essayons de transposer de l'échelle de l'individu, un peu comme l'a fait Freud, à l'échelle de la société ou de sous-groupes de cette société, les concepts que je vous ai très rapidement esquissés. Et bien entendu, on peut avoir, du coup, en analysant ces instances, en analysant ces défenses, on peut avoir des pathologies très normal ou très anormal, de la même manière que Freud analysait les névroses, qui étaient par exemple le conflit très fort entre le surmoi, un surmoi puissant et fort, et un moi qui était écrasé par ce surmoi et qui donc en était tétanisé et angoissé. Bon, eh bien, notre question, c'est au fond, quelles sont les pathologies qui peuvent caractériser la société moderne, hein, et qu'est-ce que nous dit cette analyse-là appliquée à la société moderne, avec le point de départ très important que nous donnent les psychanalystes, qui est que les pathologies ont changé parce que les individus ont changé, hein, et que le psychisme des individus a profondément évolué. Les pathologies que rencontrent les praticiens aujourd'hui ne sont plus tellement les névroses de la bourgeoisie du début du XXe siècle à Vienne, mais ce sont au contraire des personnalités sans limites, narcissiques, très individualistes, ce que les psys appellent les borderline, donc avec une difficulté à se cadrer. Et qu'est-ce qui fait que cette psychologie d'abord a évolué du bourgeois freudien du début du XXe à cet individualiste du XXIe siècle? Et deuxièmement, quelles conséquences ça emporte du point de vue, bien sûr, de l'analyse de notre comportement, de comportement des groupes et de notre société? Voilà la méthode. En quelques minutes, Gérard va en tirer quelques conséquences sur le chaos.
Oui, bonjour. Donc j'enchaîne après le propos de Vivien pour entrer plus davantage dans le vif du sujet. Et je commencerai par m'interroger sur le titre que nous avons proposé pour ce second ouvrage, « Capitalisme, finance, démocratie, le nouveau malaise ». D'abord, pourquoi avoir rapproché ces trois termes? Ces dernières années, nous avons réfléchi à la suite de la publication en 2007 du premier ouvrage. Nous avons essayé d'illustrer et de mettre à l'épreuve les hypothèses formulées dans le premier ouvrage en les appliquant à l'actualité, aux événements qui se sont déroulés ces dernières années et spécialement à la crise financière et économique que nous traversons. Et on s'est aperçu, en parlant également de la démocratie, de la finance, du capitalisme, qu'au fond, ces trois domaines étaient traversés de bouleversements à peu près similaires et que les mots de bouleversement, de désenchantement, d'excès et de crise s'appliquaient aussi bien à chacun de ces domaines. Bref, que le mot chaos, pour résumer, pouvait s'appliquer à chacun de ces trois domaines et au monde qui nous entoure. Alors, ça, c'est les trois mots qui sont dans le titre. L'expression suivante, le nouveau malaise, c'est au fond une manière de caractériser l'hypothèse commune, l'hypothèse qui rend compte de ces phénomènes qui traversent les trois domaines en question. Alors, s'il y a un nouveau malaise, c'est donc qu'il y en avait un autre, un ancien malaise, un malaise qui a précédé. C'est celui décrit par Freud précisément dans ses deux ouvrages de psychologie sociale que sont « Malaise dans la civilisation » en 1929 et en 1927, le livre qui a précédé, qui s'appelait « L'avenir d'une illusion ». Alors cet ancien malaise est celui dont souffraient les contemporains de Freud, malaise qui se caractérise par un état névrotique à peu près permanent, un sentiment de culpabilité, un surmoi écrasant qui faisait que les individus devaient réfréner leurs pulsions, notamment leurs pulsions sexuelles, c'était le propos de Freud principalement, un surmoi puissant qui prend ses racines dans la tradition et dans la religion. Donc la répression de ces pulsions entraîne ce sentiment de culpabilité, et c'est de ce malaise dont nous parle Freud. Il écrit « Le sentiment de culpabilité est le problème capital du développement de la civilisation ». Vous voyez que c'est une affirmation très forte. Et il pense qu'on sortira de cet état de choses qu'il déplore, grâce au progrès de la raison, au progrès de l'intelligence. Et il écrit « Le temps viendra où sera établie la primauté de l'intelligence ». Donc il est optimiste dans une certaine mesure. Est-ce que les choses ont évolué comme il l'imaginait? Malheureusement, il ne semble pas. Nos contemporains qui vivent en Europe, aux États-Unis, dans le monde occidental, aujourd'hui se sont libérés de l'ancien malaise et de ce sentiment de culpabilité permanent. À la suite d'enchaînements historiques qui seraient trop longs d'analyser, ils se sont libérés, ils ont fait taire leur surmoi, ils ont mis leur moi, je dirais, à la raison, ils l'ont mis à la raison, et ils donnent libre cours à leurs pulsions. Alors, historiquement, on peut dater peut-être cette rupture de 1968, des événements de 68 en Europe et aussi aux États-Unis. Il suffit de se souvenir des slogans de cette période. Il est interdit d'interdire. Comment peut-on penser librement à l'ombre d'une chapelle? Prenons nos désirs pour les réalités, etc., etc. Donc, vous voyez que cette rupture, on peut la dater de cette époque. Elle a pris source dans le monde étudiant et elle s'est propagée, je pense, à l'ensemble de la société. Donc le moi de l'homme de nos contemporains, privé de la ressource du surmoi pour canaliser les pulsions, et le ça peut se donner libre cours, mais il va se heurter au principe de réalité. Il va se heurter au réel, à des impossibilités, à des limites qui sont non pas imposées dans son subconscient, dans son inconscient, par des règles morales internalisées, mais par des limites qui sont extérieures à lui, qui sont les limites du réel, des impossibilités. Impossibilité de dépenser trop d'argent, sinon on s'endettant. Impossibilité de ne pas travailler, parce qu'il faut gagner sa vie. Donc il y a des impossibilités que rencontrent les individus, mais que rencontrent aussi les États. Donc en résumé, si l'ancien malaise, c'est un conflit entre le ça et le surmoi difficilement arbitré par le moi, le nouveau malaise, c'est un conflit entre le ça et le réel. L'ancien malaise donc débouche sur des maladies de type névrotique. Et le nouveau malaise, on est dans le domaine de la psychose, c'est-à-dire une difficulté à appréhender le réel. On commence par le nier avant de buter dessus. Donc le déni du réel fait partie, je crois, des symptômes qui caractérisent le comportement des individus et des sociétés aujourd'hui. Alors, comment se décline cette hypothèse du nouveau malaise dans les trois domaines qui sont énumérés dans le titre? Le capitalisme d'abord. Alors le capitalisme a existé bien avant l'ancien et le nouveau malaise. Pour le définir dans les termes de notre macro-psychanalyse, le capitalisme, c'est un mode d'organisation du producteur. Le capitalisme a pris toutes sortes de visages, toutes sortes de formes. On est passé du capitalisme des marchands d'épices de la Renaissance, on est passé aux ligues hanséatiques, on a pu connaître ensuite de nos jours le capitalisme rhénan, le capitalisme anglo-saxon. Et nous voilà maintenant dans une forme qu'il faut qualifier de capitalisme financier mondialisé. C'est l'incarnation la plus récente du capitalisme. Et c'est aussi, du fait du nouveau psychisme qui anime les acteurs, c'est le triomphe de la liberté. C'est le triomphe de la liberté d'entreprendre en économie. L'espace des possibilités est toujours plus vaste. Le terrain de jeu est celui de la planète tout entière. Et le producteur est tout puissant. Les princes, face à lui, sont très affaiblis. Et les contraintes peuvent être repoussés, et en particulier l'endettement est une façon de repousser les contraintes du réel jusqu'au moment où l'on bute sur ces contraintes, ce que nous vivons depuis quelques années. Ces contraintes des impossibilités à transgresser les contraintes budgétaires finissent par apparaître et on débouche sur des crises financières et les crises que nous connaissons. Donc c'est une interprétation possible de la crise, c'est de dire on a voulu, le producteur mu par des pulsions, mu par des excès, va rencontrer des limites. Après les avoir repoussées grâce à l'endettement, il bute sur des limites et finalement le réel reprend ses droits. Alors la finance est évidemment dans cette affaire un rouage essentiel. La finance a assez naturellement tendance à s'emballer, à connaître des excès, mais aussi des accès de pessimisme. Je dirais, structurellement, la finance est animée d'épisodes maniaco-dépressifs qui se succèdent les uns après les autres. Et si la finance se grippe, c'est tout le moteur de l'économie qui se grippe. Là encore, dans la finance d'aujourd'hui, le surmoi, c'est-à-dire les règles internalisées qui faisaient que des choses se font et d'autres ne se font pas, ces règles-là ont quasiment disparu. Il est devenu moralement autorisé, peut-être pas juridiquement ou pénalement autorisé, mais moralement autorisé de faire le maximum pour engranger des profits. Et donc dans des phases comme celle-là, on assiste à la prolifération d'aigres fins et d'escrocs en tout genre qui manipulent les marchés, qui manipulent et on enregistre succession de scandales, je n'insisterai pas, les uns derrière les autres. Le moi, dans ce contexte, le moi financier, cette fois dans ce groupe structuré qu'est la communauté financière, puisque le surmoi est presque éteint, le moi, lui, essaye de poser des limites, mais très imparfaitement, de façon très, très maladroite. On a vu dans la phase récente que le jeu des agences de notation, les règles de Bâle 1, 2 et 3 maintenant, des règles consistant à mettre des limites, des ratios de fonds propres, toutes ces règles-là n'ont pas réellement fonctionné puisqu'on a assisté à la crise financière majeure. Bref, le couple capitalisme-finance mondialisée forme un mélange détonnant qui a atteint ses limites de fonctionnement à plusieurs reprises dans la période récente, une succession de crises financières, jusqu'à la crise majeure de 2008. On est passé deux fois au bord du précipice, en 2008 à l'occasion de la faillite de Lehman Brothers et à nouveau en 2011-2012 avec la crise de l'euro. Alors je dis un mot, s'il me reste du temps, de la démocratie, qui est le troisième terme de notre triptyque. Et là, comme pour le capitalisme, la démocratie, une ancienneté bien plus importante, depuis les Athéniens, les pères fondateurs de la démocratie américaine. Donc il y a des formes de démocratie qui se sont succédées. Et aujourd'hui, nous sommes dans une forme de démocratie qu'on peut qualifier de démocratie participative ou démocratie d'opinion, démocratie du public. Donc, il n'y a pas de terme vraiment consacré pour désigner la toute-puissance des spin doctors et du rôle que joue l'identification aux leaders. Les leaders, aujourd'hui, sont à la remorque du ça, en essayant de coller à ses pulsions, à ses désirs. Alors, quelle définition? Comment peut-on voir la démocratie dans les termes de notre macropsychanalyse? La démocratie, c'est un mode d'organisation du moi, cette fois, et non plus un mode d'organisation du producteur. C'est un mode d'organisation du prince. Elle a ceci de particulier par rapport à toutes les autres formes de gouvernement, que dans cette optique, le moi se voit renouvelé par le ça périodiquement, au terme d'un processus électif, un processus de choix qui se veut concurrentiel et non violent. C'est la définition que donne Schumpeter de la démocratie. Ça n'est pas le gouvernement du peuple par le peuple, qui est une idée un peu trop, je dirais, normative. Mais en termes de constat, la démocratie peut être vue comme un mode de renouvellement, un mode de dévolution du pouvoir au terme d'une procédure qui est régulée, d'une procédure concurrentielle et non violente. Alors donc la démocratie, ça n'est pas les élections, ou pas seulement, mais aussi tout ce qui va autour. Et dans cette optique, le surmoi, dans un monde démocratique, ce sont les règles qui surplombent les règles électorales de tous les jours, c'est-à-dire l'esprit civique et la loyauté dans la concurrence. Alors aujourd'hui, les effets du nouveau psychisme que j'ai défini comme le nouveau malaise se manifestent également dans ce domaine. On a aussi un moi très affaibli, des princes très affaiblis face aux pulsions de l'opinion, et un surmoi, c'est-à-dire l'esprit civique, qui s'est en partie délité. Au fond, la nouvelle économie psychique a imprimé sa marque au processus démocratique. Et si l'on reprend maintenant l'ensemble des trois termes, la démocratie et les gouvernements nationaux sont face non pas seulement au peuple de l'État-nation qu'ils dirigent, mais à un capitalisme mondialisé, financier mondialisé, qui comprend infiniment plus de bataillons, infiniment plus de pouvoir qu'il peut en avoir lui-même. Donc on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire l'affaiblissement des gouvernements face à une économie mondialisée qui impose ses normes, qui impose sa loi, et une population à l'intérieur des États-nations, mue par des pulsions de plaisir, de jouissance, que le moi a beaucoup de mal à canaliser et qui ne peut que suivre. Alors, j'arrive au terme de mes 10 minutes. Il reste la dernière question, le chaos et après. Alors, je pense que vous allez nous poser cette question, donc je ne vais pas y répondre tout de suite.
Bon, alors je dis un mot sur la crise financière. Je vais le dire en termes pas du tout techniques. Comme Gérard vient de le dire, on a assisté depuis une quinzaine d'années à une succession de crises. On a eu la crise de l'Internet, on a eu d'abord les crises asiatiques et russes, puis la crise de l'Internet, puis la crise des subprimes, puis la crise de l'euro, qui sont toutes quand même, en tous les cas, qui ont une facette de crise financière très importante. Et quand on regarde ces crises, et nous avons gardé particulièrement la crise de l'Internet et puis les deux crises de l'euro et la crise financière des subprimes, elles ont des similitudes et des différences. Dans toutes les crises financières, il y a un pattern, disons, qui est caractéristique, qui est celui qu'on observe particulièrement bien à propos de la crise d'Internet, qui est un schéma selon lequel les gens ou les groupes ou la communauté financière internationale, c'est le groupe qu'on considère, se racontent une histoire à une croyance qui va se révéler fausse. Alors, une croyance, c'est quelque chose, c'est une affirmation, c'est un discours qui n'est ni juste ni faux. On ne peut pas dire s'il est juste ou s'il est faux. Et donc, par exemple, on se souvient très bien, à la fin des années 90 et au début des années 2000, la croyance, c'était le discours que tous les professeurs nous enseignaient, dans la nouvelle économie, c'est qu'il y avait une nouvelle économie, que cette économie changeait les règles du jeu par rapport à l'économie classique, que ce qui était important, c'était le clic et non plus les coûts et les revenus. Au fond, cette croyance, elle a créé, elle a entraîné ou elle a en tous les cas alimenté les désirs pour les actions .com, les actions Internet à ce moment-là. Donc il y avait une histoire, un mythe qui était raconté, une croyance qui était portée. Il y avait un objet de désir qui était, en l'occurrence, les actions Internet ou les projets Internet. D'une certaine manière, il n'y a pas eu à ce moment-là de moi ou donc de régulateur ou de surmoi. Parce qu'il faut reconnaître que dans le domaine de la finance, il n'y a pas toujours beaucoup de surmoi, il n'y a pas eu de moi ou de surmoi qui a entravé ces pulsions, ces désirs vers la nouvelle économie, vers les actions Internet, etc. D'où, bien sûr, une période maniaque qui ensuite met beaucoup de temps qui d'abord se développe avec beaucoup de force, qui d'ailleurs justifie, entérine la croyance, dans un premier temps, et qui passe outre toutes les mauvaises nouvelles, toutes les tous les éléments qui iraient contre la croyance, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait une prise de conscience que le monde n'est pas tel qu'il était décrit par la croyance précédente, et que après une période de déni assez longue, une crise se produise, une période d'assimilation de la situation, de culpabilisation très forte, de recherche de coupables, de boucs émissaires, plus ou moins violentes, jusqu'à ce que, progressivement, les choses se remettent en place et que l'on puisse repartir dans un cycle normal. Donc ça, on retrouve cette analyse, qui est d'ailleurs très proche de l'analyse que faisait Kindelberger dans ses analyses des crises. On retrouve dans toutes les crises financières cette analyse. Dans la crise de subprime, on la retrouve, bien sûr, d'une certaine manière, sur l'immobilier, sur le discours concernant l'immobilier, l'enrichissement ou l'accès à la propriété des classes les plus pauvres aux États-Unis grâce à l'innovation financière, etc. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est ce qui a fait que, d'ailleurs, je pense que la crise a été beaucoup plus grave, il y a des croyances, d'autres types de croyances, d'abord, qui se sont apparues, notamment les croyances dans les modèles, et l'idée que l'on pouvait, à travers des modèles, rendre compte de la réalité, même dans ces cas les plus extrêmes, ce qui révélait fausse. Et puis, il y a un phénomène de clivage, c'est-à-dire le fait que, dans toute prise de risque, il y a le bon côté, le mauvais côté, le rendement et le risque. On a vu dans les marchés, mais aussi dans les banques, comment les vendeurs préoccupés de rendement, donc qui portaient la bonne part des projets, prenaient le pas sur les hommes de risque qui, eux, portaient la mauvaise parole, la parole désagréable. Et donc ce clivage a été observé, enfin on a pu l'observer. L'organisation même, souvent des institutions, a fait qu'il y avait une séparation en silos. Il y avait une tendance à vouloir ne voir que le bon côté des choses et à ignorer, à nier le risque correspondant. Donc ça a bien sûr été un facteur d'amplification très importante de la crise financière. De même, dans la crise de l'euro, on a typiquement une croyance qui s'est révélée fausse et honnêtement, rétrospectivement, posons-nous la question de savoir si on est à partager nous-mêmes les uns et les autres il y a 10 ans de cela, la croyance que à travers l'euro, une dette grecque était équivalente à une dette allemande, était équivalente à une dette française c'était la dette de l'euro. Bien entendu, personne d'une certaine manière ne s'est posé la question de savoir pourquoi il y avait quelques points de base de plus de rendement sur la dette grecque, et tout le monde se réjouissait d'avoir ces quelques points de base de plus, donc ces quelques centièmes de pourcents de plus, hein, sans se demander pourquoi, alors que bien entendu c'était implicitement quand même une prise de risque supplémentaire, d'ailleurs gravement sous-estimée en l'occurrence. Voilà, donc on peut analyser la crise financière à travers ce prisme, et les crises financières avec leurs nuances, leur gravité plus ou moins importante, et vous voyez que la crise de 2007-2008, hein, la crise des subprimes, qui est quand même la crise majeure, hein, des 20 dernières années, pour ne pas dire plus, est une crise complexe et dans laquelle on a à la fois des fausses croyances, donc la puissance du « ça », qui n'est pas entravé par un surmoi, mais aussi le clivage qui est caractéristique d'une forme de psychose qui peuvent exister dans les groupes que constituent les marchés ou les banques ou la communauté financière internationale. Voilà ce que je peux dire rapidement sur ce sujet des crises financières. Je voudrais juste, non pas vraiment parler, puisque on est déjà à la fin de nos 40 minutes, je voudrais juste profiter de dire un mot sur l'Internet pour introduire une notion très importante supplémentaire. D'abord, on ne peut pas faire une analyse psychanalytique d'Internet parce que Internet n'est pas un groupe. Hein, ce qui est important, c'est les groupes sur Internet. Hein, c'est le groupe des réseaux sociaux, c'est le groupe de Bitcoin, c'est des groupes, des internautes, si vous voulez. Ça peut s'analyser dans notre typologie. Bon, ce qui est important dans Internet, bien sûr, c'est un cas très intéressant parce que c'est un cas où le surmoi est quasiment inexistant par construction dans l'intérieur des groupes, ou la plupart des groupes en tous les cas, où le moi est très faible et où, dans les cas où il y a quelque chose qui relie tout ça, donc d'une part le ça s'exprime très librement dans le meilleur et dans le pire, mais où aussi on a une sorte de surmoi procédural. Par exemple, le cas de Bitcoin est très intéressant. La communauté de Bitcoin s'est instaurée des règles du jeu, des procédures qui permettent de créer du Bitcoin, qui permettent de vérifier l'authenticité des monnaies correspondantes, et procédures qui permettent également de créer de la monnaie, de fixer des règles de création monétaire avec des limitations quantitatives, etc. Et ça, c'est une sorte d'animal intermédiaire entre ce que j'appelle un surmoi procédural et un professeur qui, d'une certaine manière, joue ce rôle de fixeur de règles, en quelque sorte, sur Internet. La seule chose que je voulais ajouter sur Internet, c'est que Internet est représentatif d'un phénomène majeur dans notre société, qui est la transmission horizontale. Nous avons dit que le psychisme a changé, qu'on est passé d'un surmoi écrasant à un surmoi défaillant, mais une des autres choses qui a changé dans la société moderne, c'est que la transmission a changé. La transmission était traditionnellement du père au fils, du maître à l'élève, hein, d'une génération à la génération suivante. Bien sûr, ça subsiste, hein, et il reste des choses importantes de cette transmission-là. Mais il y a aussi une transmission horizontale qui est foudroyante, d'une certaine manière, qu'Internet caractérise très bien, hein, qui fait que on donne accès très librement à beaucoup de choses à travers les groupes, à travers le ça. Et donc, on introduit donc une méthode de transmission qui, bien sûr, favorise, affaiblit certainement le surmoi et le moi, et favorise encore plus les pulsions.
5 minutes sur l'euro.
Donc je vais essayer d'expliciter un petit peu ce que Vivien vient de dire en l'appliquant à la crise de l'euro. Mon propos est simplement de montrer que cette crise-là, comme les précédentes, a été tirée par des croyances. C'est-à-dire que la mise en place de l'euro, le projet lui-même, est un projet qui a été drivé, piloté par des croyances. Alors, les croyances, on en a parlé à plusieurs reprises, ce sont des énoncés non vérifiables ou non falsifiables du type « le Père Noël existe » ou « l'homme est doté d'une âme immortelle ». Ce sont des choses difficiles à démontrer, mais difficiles à infirmer également. Donc, les croyances ont deux caractéristiques. Elles interfèrent avec le calcul rationnel dans la prise de décision, dans des proportions variables, et elles correspondent, ça c'est du Freud authentique, elles correspondent à la satisfaction d'un désir. Si quelqu'un adhère à une croyance, c'est que c'est le moyen pour lui, psychiquement et de façon fantasmatique, c'est un moyen de satisfaire un désir caché ou de rejouer une séquence qui lui a apporté un bienfait ou au contraire qui l'a pénalisé. Donc derrière une croyance, il y a toujours la satisfaction d'un désir caché. Alors derrière l'euro, il y avait toute une série de croyances. En dehors du fait que l'euro était rationnellement un moyen d'éliminer les crises de change et d'éliminer la spéculation, de faciliter les voyages à travers l'Europe, il y avait aussi la croyance que l'euro pourrait résister à des chocs frappant les économies nationales. Et on sait que pour qu'une union monétaire fonctionne, un certain nombre de conditions doivent être remplies. Donc vous les connaissez sans doute, c'est ce qu'on appelle la théorie des zones monétaires optimales. Il faut une bonne flexibilité des salaires, il faut des mouvements de population, de main-d'œuvre suffisamment fluides entre les différents pays. Et à défaut, il faut un système de solidarité budgétaire, en général à travers un budget fédéral. Donc ces conditions-là, qui sont les conditions du bon fonctionnement d'une union monétaire, manifestement n'étaient pas satisfaites au moment de Maastricht, 91, 89, 91, moment de la négociation. Mais la croyance des promoteurs du projet était que ces conditions seraient satisfaites dans l'avenir. Et donc, en particulier, penser qu'en matière budgétaire, il n'était pas nécessaire d'avoir un budget fédéral suffisamment important et que les États, se pliant à une discipline, les fameux 3% de déficit, 60% de dette, avec ces règles-là, on pouvait faire l'économie d'un budget fédéral. De plus, les promoteurs ont été très loin dans leur audace en faisant en sorte qu'on ne puisse pas sortir de l'euro sans sortir de l'Union. Article 50 du traité de Maastricht postule que sortir de l'Union, ça suppose une négociation à plusieurs. Et sortir de l'euro, ça impose la sortie de l'Union. Donc ce qui rendait quasiment impossible la disparition de l'euro. Alors, une fois la croyance décrite comme je viens de le faire, quels étaient les désirs cachés des promoteurs? Quels étaient les désirs refoulés des promoteurs? Je crois qu'il faut distinguer les trois générations qui se sont succédées. Celle des pères fondateurs, De Gaulle, Adenauer, je crois, ne s'était pas embarrassé de considérations de nature trop métaphysique ou trop philosophique. Il voulait la réconciliation de l'Allemagne et de la France pour éviter la réédition des guerres européennes. Les fils, c'est-à-dire, je donne des noms, Giscard d'Estaing, Delors, Schmitt, eux ont cherché à aller plus loin, au-delà de la réconciliation, vers une fusion des peuples. Et faisant cela, ils avaient en tête de laver leur propre père de la culpabilité des crimes des guerres européennes, des guerres civiles européennes. Donc il y avait un désir caché, et l'euro étant un moyen d'identification des peuples à patrie européenne, au même titre que le drapeau étoilé ou l'hymne à la joie. Et enfin, les petits-fils sont arrivés, c'est-à-dire Chirac, Merkel, Sarkozy, qui, eux, n'ont pas connu le traumatisme de la guerre ou le traumatisme vécu par leurs propres parents, ou à moindre degré, qui, eux, représentent la génération des petits-fils, c'est-à-dire des gens qui sont dans l'oubli, d'abord, absence de mémoire, et dans la volonté de jouir. Jouir de l'euro, c'est un moyen très commode, l'euro, de voyager. Ils ont voulu l'euro, mais sans les contraintes. Donc à partir de 91, 10 ans se sont écoulés pendant lesquels on a négocié la convergence par toutes sortes d'instances comptables. Et les 10 années suivantes, on a vécu dans l'euphorie de croyances qui continuaient de subsister. Ces croyances se sont effondrées au moment de la grande récession de 2008. Là sont apparus le fait que les économies européennes subissaient un choc majeur et qu'elle n'était pas capable de répondre avec la même capacité à ce choc majeur. Et donc, tout à coup, les croyances dont je parle, que tout le monde partageait, se sont révélées erronées. C'est-à-dire, on n'a pas eu de marche vers le fédéralisme, on n'a pas eu de flexibilité des salaires suffisante, il n'y a pas eu de mouvement de population non plus. L'identification à une patrie européenne est restée très embryonnaire. Et donc, on vit aujourd'hui cette déception, ce désenchantement vis-à-vis de l'Europe. Alors, où en est-on? Je vais conclure là-dessus. La crise s'est estompée. Aujourd'hui a fonctionné le putsch réalisé par Mario Draghi à la tête de la BCE. Il a fait en sorte de rassurer les marchés en leur disant que coûte que coûte, il rachèterait des dettes publiques et il ferait en sorte que l'euro subsiste. Aujourd'hui, le putsch Draghi, on peut l'appeler le Draghi-put, au sens où il offre un moyen de se tirer d'une chute des valeurs. Il y a une limite à cette chute des valeurs. Aujourd'hui, les marchés font confiance à ce nouveau contexte monétaire qui est, rappelons-le, en violation des termes du traité de Maastricht, puisque l'article 123 du traité interdit à la Banque centrale de racheter des titres publics. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Quels sont les scénarios envisageables? Vous allez sans doute me poser la question. Scénario envisageable, à mon sens, ou bien un bond fédéral, un bond en avant de nature fédérale, ou bien une perpétuation, le prolongement de l'enlisement que nous vivons aujourd'hui, avec une croissance faible, ou bien l'éclatement de l'euro. Voilà, je vous laisse imaginer le scénario le plus probable. Merci.
Donc tout va bien. Je vais passer la parole à Jean-Marc Daniel. Alors juste au passage, Vivien Lévy-Garbois a parlé de Bitcoin. Alors vous savez peut-être que nous avons un petit atelier de réflexion des ingénieurs des mines en troisième année qui font mémoire et que nous recyclons souvent leurs travaux dans des activités de l'École de Paris ou la Gazette et tout. J'ai vu une note intermédiaire qui s'appelait l'imposture Bitcoin. Je pense qu'on va les programmer un de ces jours.